Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un enfant du pays dont nous allons parler ce matin, un homme au destin exceptionnel, né à Campuac dans l'Aveyron, un temps vicaire à la cathédrale de Rodez, décédé en 2013 et aujourd'hui considéré comme un grand spirituel. Pierre-Marie Delfieux est le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, des moines d'un nouveau genre, des moines plantés dans les déserts du 21e siècle et villes. Une figure pleine d'une paix venue d'ailleurs que je vous propose de découvrir ce matin. Pierre-Marie Delfieux, un moine dans la ville, c'est donc le thème de l'émission de ce matin, avec comme invité frère Jean-Christophe, qui est lui-même moine et prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de faire un détour par nos studios. Vous allez le voir, chers auditeurs, ce n'est pas un enfant du pays, mais il connaît aussi notre pays, puisqu'on parlait avant cette émission de l'Aubrac. On y reviendra. Alors Pierre-Marie Delfieux, très connu de certains, moins connu de d'autres, parfois même de certains catholiques pratiquants, fondateur de ces fraternités monastiques de Jérusalem. On peut peut-être commencer par dire un petit mot de la présence de ces fraternités dans notre pays aujourd'hui, puisqu'il y a une branche qui est apostolique et qui est à Tarbes. Ça nous servira d'introduction. Racontez-nous qui sont ces moines dans la ville à Tarbes.
Donc ces frères et sœurs, car nous sommes deux communautés, toujours une communauté de frères, une communauté de sœurs, qui sont nés à Tarbes, en fait sont nés exactement à Ossun. C'est le père André Cab, qui était alors curé des petits villages d'Ossun et autour, qui a fondé cette communauté pour donner dans une paroisse une présence de vie religieuse et de témoignage d'une vie communautaire avec des jeunes frères et sœurs et aussi de la liturgie, l'office des heures qui est chanté dans la paroisse. Et très rapidement, donc ils sont nés vers 1997, au bout d'un an, ils ont voulu se relier à une communauté religieuse. André Cab connaissait frère Pierre-Marie et donc frère Pierre-Marie dit « Ah ben allez-y, oui, vous êtes de Jérusalem, voilà notre livre de vie, voilà notre habit, lancez-vous quoi, voilà ».
Alors Pierre-Marie Delfieux, j'étais surpris en préparant l'émission de me rendre compte que de fait même certains chrétiens pratiquants et plutôt informés sur la vie de l'Église ne le connaissent pas bien ou ne savaient même pas qu'il était mort. C'est un fondateur vu de loin, hein, à la fois un grand spirituel, une figure on va dire de l'Église de France presque d'après-guerre et puis un homme discret. Ça vous va bien d'avoir un fondateur comme ça ?
Frère Pierre-Marie, c'est un fonceur. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ne soit pas si connu que ça, parce que lui, il était toujours 10 ans en avance sur nous, quoi. Donc je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, ils l'ont pas vu passer, quoi. Il était toujours devant. Et pour lui, ce n'était pas sa personne qu'il voulait mettre en avant. Ce qu'il voulait mettre en avant, c'était le Christ à travers le témoignage d'une communauté. Donc c'est vrai que moi qui ai vécu 22 ans à ses côtés, je rends grâce vraiment pour ce témoignage de vie, où ce qu'il a voulu, c'est planter des fraternités, quoi. Puis après que ça continue après lui, et c'est le cas aujourd'hui.
On va faire, si vous voulez le bien, un peu la biographie à l'envers. J'aimerais qu'on commence par sa mort. Je trouve que ça dit peut-être quelque chose du projet de Dieu sur cet homme. J'ai lu dans un livre que vous avez m'a fait sympathiquement passer, qui a été écrit par une de vos sœurs, qui ne sera pas publiée, mais qui nous a servi un peu de base pour cette émission. La manière dont il était mort, je crois qu'il y a une expression à un moment qui dit « il est presque mort debout ». Racontez-nous la toute fin de sa vie.
Frère Pierre-Marie, c'est un travailleur. Donc, il a effectivement travaillé jusqu'au bout. Il écrivait beaucoup, et surtout ses homélies. Alors, il a eu un cancer qui a été détecté en octobre 2012, cancer du rein. Et puis, après une année de traitement où il a vécu sa vie normale, rien ne l'arrêtait. Bon, mais elle commençait à faiblir. Et à partir d'octobre, on lui a enlevé un rein. Et puis, il a été à Magdala, qui est notre maison qu'on appelle dire de famille.
Région parisienne, c'est ça ? Oui,
voilà, en Sologne. Au sud d'Orléans. Et c'est là qu'il a passé les trois derniers mois de sa vie. Et il a décidé d'écrire en fait l'histoire de la communauté. Donc chaque jour, il écrivait, il était à sa table, il écrivait, il demandait à des frères et sœurs, lui donnait des renseignements, des dates, des documents pour alimenter son écrit. Et donc le jour même de sa mort, le matin même, il écrivait, il commençait un nouveau chapitre qui était notre fondation au Mont-Saint-Michel. Et donc on a sur sa table cette feuille inachevée qui est là. Et en fait, c'est au moment du déjeuner, il s'est senti mal, il allait s'allonger. Puis la sœur qui s'occupait de lui, vu qu'il faisait un AVC, puis en un quart d'heure, il est parti.
Il est parti dans la paix. Enfin,
comme je disais tout à l'heure, c'est un fonceur. Je dis même dans la mort, il a foncé, quoi.
Alors, Pierre-Marie Delfieux, donc enfant de l'Aveyron, né le 4 décembre 1934 à Campuat, qu'on va rester un moment sur l'Aveyron. Il en parlait souvent de ses premières années dans l'Aveyron. J'ai lu qu'il disait qu'il avait eu une enfance heureuse. Que savez-vous de cette enfance heureuse dans l'Aveyron?
Bah, il aimait bien quand on va sur le Braque nous amener sur Campuac, donc qui est à une demi-heure en voiture de l'Aubrac. Campuac, c'est un petit village près de Rodez. Lui, il est issu d'une famille chrétienne de 6 enfants, c'est le troisième. Donc il a grandi dans le village. Tous les matins, il y avait le catéchisme avec l'abbé Trémouille, ça s'invente pas comme nom.
Tous les matins, catéchisme.
Tous les matins, catéchisme et messe. Voilà, il servait la messe et puis après, donc il allait à l'école laïque du village. Donc c'est la vie d'un village d'avant-guerre et de pendant la guerre, quoi. Il a connu l'occupation allemande, sa famille a caché des juifs aussi, donc ça l'a beaucoup marqué. Voilà. Mais c'est vraiment un homme du pays, un Rouergue, il reste très attaché à ses racines et en même temps, il se disait citadin. Ça fait partie du paradoxe du bonhomme, quoi.
À propos de son enfance, on peut parler de sa première communion qui, je crois, a une grande importance. Il a fait sa première communion à l'âge de 6 ans et il disait depuis se nourrir de l'Eucharistie tous les jours.
Exactement. Et ça, c'est... Il nous l'a raconté, en fait, que 10 ans après la fondation, un jour, il a écrit ce témoignage de sa première communion qui a été une expérience vraiment... Voilà, comme disait sa maman, le petit Jésus est là en toi. Et ce Jésus, il habitait en lui et il l'a jamais quitté, quoi. Et toute sa vie, il a toujours voulu nous dire, avec la parole de Dieu et l'Eucharistie, on a tout.
J'ai cru même comprendre qu'il avait reçu sa vocation un petit peu de prêtre, en tout cas, à l'occasion de sa première communion.
Exactement. Très jeune, il portait ce désir de la vocation d'être prêtre, donc prêtre dans le diocèse de Rodez, et à tel point qu'au moment de la terminale, il fallait choisir, en fait, s'il allait à Rodez, je crois, ou s'il allait au grand séminaire. Son choix était grand séminaire.
Il fait donc il va au collège de l'Immaculée Conception à Espalion, Cocorico, c'est toujours dans le pays. Il rentre au grand séminaire de Rodez. Il fera après sa théologie à l'Institut catholique de Toulouse, avant d'étudier la philosophie, les sciences morales à Paris et à la Sorbonne. À propos de cette période, on va dire avéronnaise, on peut dire un tout petit mot aussi. Il a été un temps tout simplement prêtre dans le diocèse de Rodez.
Exactement. Donc, quand il a été ordonné, après, il a été vicaire à la cathédrale de Rodez pendant 2 ans. Et son désir était justement de renouveler la liturgie. On était en pleine effervescence avec le concile, on était en plein dans le concile. Et lui, il a vécu ça avec passion. Et pour lui, c'était un peu un cas d'école de vivre ça à la cathédrale de Rodez.
Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Parce que la liturgie tient une importance, une très grande importance dans votre charisme, j'ai envie de dire, des fraternités monastiques de Jérusalem. Pouvez-vous nous dire quelques mots supplémentaires sur cette intuition qu'il a eue? Donc c'était à la fin du concile, hein, 1961.
Exactement. Quand il a été ordonné, c'est 61. Lui, justement, il aimait bien nous dire qu'il a connu les deux époques, quoi. Il a grandi, c'était avant le concile, et il a vu toute l'effervescence du concile. Et puis après, il a été un passeur du concile, en fait. Et il a mis en application, à travers sa vie, à travers la communauté qu'il a créée, ses intuitions du concile, qui étaient de faire participer le peuple de Dieu à la liturgie, de rendre la parole à Dieu, de mettre la parole de Dieu au cœur de la liturgie, et à travers la beauté des chants, à travers une liturgie qu'il a voulu déployer, comme disait le pape Jean-Paul II, avec les deux poumons, l'Orient, l'Occident, la langue vernaculaire, le français, etc. Donc il a eu ce souci liturgique, en fait, dès qu'il a été aumônier à la Sorbonne aussi, avec le cardinal Lustiger, enfin qui n'était pas cardinal à l'époque.
À propos de cette époque, j'ai lu la chose suivante. Donc, il fréquentait évidemment l'action catholique, du moins en tout cas, il la voyait être à l'œuvre, hein, ce grand mouvement qui a irrigué profondément l'Église de France après-guerre, entre autres. Et j'ai lu dans un passage où il commençait à voir que l'action catholique, enfin les prêtres, se donnaient beaucoup de mal pour essayer de faire vivre ce mouvement, mais qu'il y avait quand même souvent un peu les mêmes têtes. Bref, rêve, que ça commençait à porter un petit peu moins de fruits. Et déjà, il avait l'intuition, il voyait que par contre, les gens continuaient à affluer dans les monastères. Alors pour ceux qui connaissent un peu cette époque, qui ont un certain âge, là aussi, il avait une longueur d'avance. C'était quand même une intuition, il fallait l'avoir, cette intuition.
Ce qu'il voulait, c'était une église qui ouvre à l'intériorité, quoi, une expérience de Dieu, offrir une expérience de Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Et il voyait justement à travers la science catholique que seulement il y avait quelque chose qui se desséchait d'une vie spirituelle. Et lui avait ce souci de nourrir sa propre vie spirituelle et aussi celle de ceux qui partageaient avec lui cette vie chrétienne. Donc, d'où la vie de prière, d'où le retour à la parole de Dieu. Enfin, il est vraiment un enfant du Concile Vatican II, quoi. Il a baigné là-dedans parce que c'est ce qu'il portait déjà. Et c'est ce qu'il avait reçu, par exemple, à l'Institut catholique. Il avait le père Martimor en cours de liturgie. Il a été, le père Martimor, un artisan des textes de Vatican II sur la liturgie, par exemple, ou le père Marie-Joseph Nicolas, qui était un grand théologien. Enfin, tous ces grands personnages, je dirais, de l'époque ont forgé cet homme qui a été, après, oui, un devancier, mais qui a été, comme bien d'autres, passeur du Concile.
Il devient ensuite donc aumônier à la Sorbonne, à Paris, donc au centre Richelieu, on y reviendra peut-être. Il vit ensuite un temps de désert qui durera 2 ans, et je fais court et rapide, et puis après viendront donc les fondations des fraternités monastiques de Jérusalem. On passera du temps sur la période du désert dans toute la seconde partie. Aujourd'hui, juste les fraternités monastiques de Jérusalem, vous êtes combien de fraternités en France et dans le monde ?
Donc nous avons 10 fraternités monastiques, donc il y a 4 implantations en France, Paris qui est la première maison, Strasbourg, Vézelay, le Mont-Saint-Michel, et puis à l'étranger nous sommes à Cologne en Allemagne, nous sommes à Varsovie en Pologne, nous sommes à Florence et à Rome en Italie, et nous sommes aussi à Montréal au Canada.
Ça fait à peu près 200 frères et sœurs, c'est ça ?
Oui, plutôt 160 frères et sœurs, plus la branche apostolique, donc de Tarbes, mais qui est aussi présente à Pistoia en Italie, plus notre maison d'accueil qui est en Sologne, Magdala, puis on a aussi une petite maison d'accueil qui est en Toscane, à Gamonia.
J'aimerais avant la première pause musicale qu'on s'arrête un petit peu sur l'Aubrac, puisque c'est un peu votre base arrière, en plus de Magdala, probablement là en Sologne. Quand on va donc à Aubrac même, à la domerie de l'Aubrac, là où les moines ont commencé à prier et défricher ce beau et magnifique plateau de l'Aveyron, on voit des petits prospectus avec la tête de Pierre-Marie Delfieux. Racontez-nous d'où vient cet attachement en fait au plateau de l'Aubrac.
Frère Pierre-Marie, quand il était justement à Rodez, il amenait des jeunes ou des camps scouts sur l'Aubrac, donc il connaissait, lui, très bien l'Aubrac. Et dans les fins des années 80, fin des années 80, début 90, des sœurs de nos communautés cherchaient un lieu pour se ressourcer. Et il a pensé à l'Aubrac. Ah oui, il y a un buron que je connais, les Goutals, on va demander au propriétaire. Et c'était M. Cahiret qui était sénateur à l'époque, qui était propriétaire. Et voilà.
Parce qu'il avait gardé des contacts en fait avec l'Aveyron, c'est ça ? Ou parce que sa famille
toujours,
était...
Son frère a été maire 45 ans à Campioa, etc. Donc il gardait des liens avec les gens du pays. Et c'est comme ça que les sœurs ont passé un été dans un buron et elles sont revenues, mais enchantées. Et d'où son idée de dire, mais en fait, on pourrait restaurer les burons d'Aubrac et en faire des petits ermitages pour 4-5 frères ou 4-5 sœurs. Et c'est comme ça qu'en 92, c'est parti l'aventure. On a restauré 20 burons et chaque été, l'Aubrac devient un monastère avec une quinzaine d'ermitages
autour d'Aubrac.
Autour d'Aubrac, voilà. Et donc, pour les gens du pays, c'est les moines sont revenus, quoi. Ils étaient partis à la Révolution, les moines sont revenus et on assure les messes tous les dimanches à la domerie d'Aubrac où elle est pleine à craquer, quoi.
Et vous me disiez, juste avant qu'on commence l'émission, que vous avez été un peu précurseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les burons, on se les arrache. Je vous disais en rigolant qu'il paraît que... Enfin, un agent immobilier m'avait dit que même Zinedine Zidane cherche aujourd'hui à acheter un buron. Vous aviez fait partie des premiers. Vous connaissez même, André Valadier.
Voilà. C'est André Valadier qui nous a ouvert les portes de l'Aubrac. Il a adhéré tout de suite au projet de Frère Pierre-Marie.
Donc André Valadier, pour ceux qui ne le connaissent pas, je mets des guillemets, c'est un peu le pape de l'Aubrac. En tout cas, c'est un grand personnage qui est très connu là-bas. Voilà,
exactement. Et donc, le projet était de faire un contrat avec les propriétaires. Vous nous prêtez votre buron maison qui est en train de s'écrouler dans votre champ. Et nous, on a créé une association, les Amis de Notre-Dame d'Aubrac, et on va restaurer votre buron et vous nous le prêtez 3 semaines par an pour que les frères et sœurs qui viennent de la ville puissent se ressourcer dans un lieu magnifique, voilà, au cœur de la nature. Et bah, ça a pris, quoi. Voilà.
Voilà, sur ces magnifiques plateaux qui sont un autre désert. Pour finir sur cette période de l'Aveyron, nous on insiste un petit peu parce que évidemment ça nous fait plaisir. C'était, comment dire, dans la vie ou dans le personnage qui était Pierre-Marie Delfieux, on n'oubliait pas en fait que c'était un, entre guillemets, un enfant de ce pays. Ou est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait parfois un peu trop là-dessus?
Non, je trouve que c'est bien équilibré. Mais lui était très fier de ses racines et il restait, il gardait son côté méridional en plein cœur de Paris. Enfin, comme le cardinal Marty, qui lui ne cachait pas son accent en plein cœur de Paris, quoi. C'est pareil.
Voilà, Pierre-Marie Delfieux, un moine dans la ville. On va faire une première pause et puis on vous retrouve, frère Jean-Christophe, pour évoquer la vie de cette grande figure. On va parler de la période au désert, puisque d'une certaine manière, un peu dans les pas de Charles Foucault, il est allé vivre des temps de désert, d'abord à Beni Abbès, puis après près de la Sécrème, là où se retrouvait aussi le frère Charles de Foucault, une période de désert fondatrice qui dit quelque chose profondément de votre vocation et de la vocation des fraternités monastiques de Jérusalem.
Emmanuel Pella.
Pierre-Marie Delfieux, un moine dans la ville, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec le frère Jean-Christophe, qui est moine et prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem. Cette figure, donc, je fais un petit cours de rattrapage pour ceux qui prendront en cours de route. Le père Pierre-Marie Delfieux, donc, qui est un enfant du pays, d'une certaine manière, puisqu'il est de Campuac, dans l'Aveyron. Et on a parlé un peu longuement, et c'est normal, de cette période de sa vie, et puis de son attachement, entre autres, au plateau de l'Aubrac. Le père Pierre-Marie Delfieux qui petit à petit est, on va dire, tombé en amour avec le désert. Racontez-nous comment c'est venu dans sa vie, frère Jean-Christophe.
Donc, Frère Pierre-Marie est devenu aumônier à la Sorbonne, avec le futur cardinal Lustiger et bien d'autres aumôniers comme Jacques Perrier, qui est devenu évêque de Tarbes, par exemple.
Donc dans les années 60.
Dans les années 60, voilà. Et ils étaient ce qui s'appelait au Centre Richelieu, qui organisait chaque année des pèlerinages, soit vers Avila, Rome Assise ou la Terre Sainte. Donc déjà, la Terre Sainte, pour Frère Pierre-Marie, c'était la découverte du désert, donc quelque chose qui l'a beaucoup attiré. Et puis à un moment, ils ont dit, tiens, pourquoi pas faire aussi des pèlerinages, des méharées dans le désert entre Tamanrasset et la Sécrème. La Sécrème, c'est là où a vécu Charles Foucault. Et Frère Pierre-Marie a été aussi pionnier là, pour organiser ces pèlerinages. Et il en a fait, 5, 6, 7 avec des étudiants. Et comme à l'époque, on prenait des années sabbatiques, en 72, il a demandé à prendre une année de césure. Et il a eu l'idée de partir au désert.
Alors, il commence par aller à Beni Abbès, en fait, qui est le premier lieu où avait été Charles de Foucault aussi.
Exactement.
Hein, qui est donc dans le sud, enfin, pas l'extrême sud, hein, mais sud-ouest de l'Algérie. Il y passe quoi ? Une année là-bas, c'est ça ?
Non, il va y passer 6 mois.
6 mois.
En fait, comme il dit, c'était un peu sa propédeutique. Il voulait voir un peu s'il serait capable de durer dans le désert. Et il y avait des petits frères de Jésus, dont Carlo Caretto, qui va devenir un grand ami pour lui, et qui est aussi un maître spirituel en Italie. Et il va construire un premier ermitage, voilà, Notre-Dame des Dunes, un peu pour se faire la main, pour voir un peu, vivre seul comme ça, est-ce que je vais y arriver ?
Et après, il descend dans le Grand Sud.
Et après, donc, son rêve, c'était la Sécrème, là où il amenait ses étudiants, où là, c'est pas le même désert. Autant Beni Abbès, c'était du sable, la Sécrème, c'est des cailloux, quoi. Donc, et un plateau à presque 3000 mètres d'altitude. Donc, vous imaginez, même si c'est le désert, il fait très froid, ça peut descendre jusqu'à moins 10 la nuit, et puis faire très chaud dans la journée, jusqu'à 30 degrés. Et voilà, donc il est parti là-bas pour 18 mois, en fait, sur le plateau de la Sécrème, où il y avait aussi des petits frères de Jésus qui étaient là.
Donc il est là, enfin, pas très loin de l'ermitage où se trouvait Charles de Foucault, il construit son propre ermitage. Vous pouvez raconter un peu cette période, lui qui avait l'habitude de beaucoup lire. J'ai lu qu'à ce moment-là, justement, il passait son temps surtout à travailler, en fait, à construire, à bâtir son petit ermitage et puis à s'occuper de la vie quotidienne.
Frère Pierre-Marie avait cette expression « je suis un manuel contrarié ». Donc oui, c'était un intellectuel, mais c'était un bâtisseur. Donc dès qu'il fallait construire, il était là. Et donc très vite, il s'est aperçu à la Sécrème que s'il ne construisait pas un ermitage, il ne pourrait pas rester parce qu'il y avait des gens qui venaient faire des retraites ou autre, et donc il fallait de la place. Donc il a proposé de construire un ermitage qu'il a appelé Bethléem, qui est à 30 minutes à pied de celui de Charles de Foucault.
Et parce que ce que vous dites, donc, c'est qu'il fut un temps donc, accueilli par les petits frères de Jésus. Et alors, j'ai lu ce passage dans le livre que vous m'avez donné. Une chose me frappe très vite, on y parlait de Dieu. Le désert était donc tel qu'on ne pouvait pas ne pas penser à lui. Et surtout, ce monde était encore plus assoiffé de Dieu que je ne pouvais imaginer. Il fallait donc, dans tous ces déserts urbains, aller le retrouver. Enfin, il constate que ses frères se sont écartés de tout et que les gens viennent à eux et que la question de Dieu surgit quelque part déjà au cœur du désert. Il a déjà un peu l'intuition des fraternités monastiques, en fait, on a l'impression à lire ce passage.
Oui, il a l'intuition parce qu'en fait, ce qui se passe, il a vécu mai 68, donc il était dans le quartier latin, donc il était vraiment au cœur de la Révolution. Et surtout, après, qu'est-ce qu'il voit ? Des prêtres qui quittent le sacerdoce, des religieux qui quittent la vie religieuse. Et lui, en fait, était en questionnement, en train de se dire, mais comment je vais tenir dans cette église qui part à volo ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, il avait ses intuitions intérieures qu'il portait, mais en fait, si on n'est pas soutenu par une vie communautaire et si on n'a pas la grâce d'une prière liturgique qui soutient notre vie spirituelle, on ne peut pas tenir. Donc il avait ses intuitions et en même temps, il connaissait les monastères traditionnels, bénédictins, trappistes, mais comme il disait, pour moi, un monachisme rural, claustral, abbatial, c'est pas pour moi. Voilà, pourquoi quitter le monde, aller dans une vallée pour prier ? Non. Donc il avait un peu ses intuitions en lui, mais il n'arrivait pas à agencer ce qu'allait devenir encore les fraternités de Jérusalem, d'où un peu cette expérience qu'il a voulu vivre, enfin plus qu'un peu, au désert, de voir si on se libère de toute chose, du superflu, est-ce que Dieu est toujours là ? Voilà.
C'est comme ça qu'il formulait en fait la question qu'il allait se poser au désert.
Exactement. En fait, lui, il n'allait pas chercher un tas de cailloux. C'est pas ça qui l'intéressait, même si la beauté des paysages, il en parlait toujours avec enthousiasme. Mais ce qu'il cherchait, c'était Dieu. En fait, il voulait voir si on se dépouille de tout. Donc, vivre sur ce plateau de la Sécrème, voilà, il y a pas l'eau courante, il y a pas électricité, la nourriture, c'est pas varié tous les jours. Hein. Et puis le froid, etc. Enfin, c'était vraiment très austère, quoi, comme vie. Et il a voulu vivre cette expérience pour voir est-ce qu'au bout, on peut vraiment rencontrer Dieu. Or, c'est ce qu'il a vécu, en fait.
Il a un ami où il se fait un ami, un grand ami à la Sécrème, donc sur le massif du Hogar. C'est le frère Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce frère et nous parler de l'amitié qui se noue entre ces deux hommes?
Frère Jean-Marie, de ce qu'il nous en a dit, était officier de marine, il était marié, veuf à 30 ans, et donc il est rentré chez les petits frères de Jésus, et il a vécu à Tamanrasset et aussi à la Sécrème, donc plus de 30 ans de désert. Alors comme il disait, quelqu'un qui a vécu 30 ans au désert...
Et en ermitage seul, non, presque?
Oui, en ermitage, tout à fait, ouais, ça forme un homme, quoi. Donc c'était pas visiblement un homme qui parlait beaucoup, mais par sa vie, il témoignait de ce qu'il habitait. Et donc c'est lui qui a accueilli Pierre-Marie là-haut sur le plateau. Et tous les dimanches, ils se retrouvaient pour célébrer la messe ensemble. Et comme il disait Pierre-Marie, ouvrir une boîte, voilà, c'était le repas du dimanche. Il y avait une boîte qui était une boîte de conserve.
Une boîte de sardines.
Exactement, qui faisait le repas du dimanche. Voilà. Et puis des partages entre eux sur l'Église, sur ce qu'allait devenir l'Église et les sujets d'actualité.
Alors il y a quelque chose de très étonnant. On a l'impression que le frère Jean-Marie avait comme pas eu l'intuition, mais en tout cas porté dans son cœur ce que le père Pierre-Marie Delfieux va après déployer. Je lis un passage de ce livre qu'on m'avait prêté. Il y a eu un dimanche aux environs de Pâques 1974 où frère Jean-Marie est sorti de sa réserve. Il se parlait le dimanche, mais en effet il ne devait pas être spécialement bavard. En tout cas, il ne devait pas prendre les devants. Après la messe de 11h et le festin qui avait suivi, sardines et lentilles, il a exhibé de je ne sais où une ancienne coupure de presse relatant le souhait du cardinal Marty, lancé à Paris en mai 1972 et appelant à la naissance de moines pour l'an 2000. Donc le cardinal Marty qui était cardinal archevêque de Paris. Donc il lui tend cet article du Monde et là, qu'est-ce qui se passe?
Il lui dit, tiens, c'est pour toi, tu liras ça. Et en fait, qu'est-ce que relate cet article? Donc c'est une conférence que le cardinal Marty avait donnée en mai 1972. C'est ce qu'on appelait les conférences des Halles, donc en plein centre de Paris. Et le cardinal avait fait cet appel, il faut à Paris des moines pour l'an 2000, des communautés d'hommes et de femmes rayonnant la prière dans la pauvreté de leur vie. Donc cardinal Marty avait cette intuition qu'il fallait au cœur de Paris une présence spirituelle, une présence de vie religieuse, accessible aux citadins. Et Pierre-Marie, en fait, était à cette conférence. Mais ça ne l'a pas particulièrement marqué. Il y avait eu des troubles d'intégristes dans cette conférence. Donc, il se souvient plutôt des mouvements là, dans l'Assemblée que ce qu'avait dit le cardinal. Et quand il lit ça, c'est 2 ans après, il dit, mais en fait, c'est ce que je porte en moi, quoi. Cette intuition qu'il faut rejoindre le monde d'aujourd'hui en y mettant au cœur de ce monde la prière et le témoignage d'une vie fraternelle.
Il y a un deuxième événement qui va jouer, si j'ai bien compris, c'est qu'un jour il rencontre un ami prêtre désabusé, et plus que ça, qui vient le trouver au désert. Racontez-nous cette douloureuse rencontre.
Effectivement, il y a un ami prêtre qui vient le voir, et puis il s'assoit là sur un tas de cailloux du plateau, et puis le prêtre lui dit « t'y crois encore ?»
Donc il avait quand même fait la démarche d'aller le rejoindre jusqu'au cœur du désert, hein, parce que Tamanrasset, il faut y aller. Hein, c'est...
Exactement, oui, tout à fait. « T'y crois encore ?» Alors Pierre-Marie interloqué, de quoi tu parles, voilà. Mais adieu, quoi. Et là, Pierre-Marie, ça l'a éveillé, quoi. C'est-à-dire, mais comment ce prêtre, il peut douter dans sa foi à ce point, quoi. Donc, il a essayé de le remonter. Et puis, Pierre-Marie était persuadé qu'après ce partage qu'ils ont eu, ça y est, il était reparti, son confrère. Et en fait, il a quitté le sacerdoce peu de temps après. Et ça a été pour Pierre-Marie un choc, quoi. Il s'est dit, mais je ne peux pas rester là dans mon tas de cailloux. Il faut que je revienne au cœur des villes pour témoigner vraiment de ma foi.
Est-ce que le désert, c'est d'une certaine manière en fait l'expérience que font tous les moines, vous compris, dans la vie qui est la vôtre? Donc l'expression aujourd'hui, c'est de dire que il y a d'autres déserts que sont les villes. On y reviendra peut-être, mais ça fait en fait partie du cœur de votre vie. À un moment, il faut comme ça, vous fassiez tous l'expérience que sur un tas de cailloux avec juste la parole de Dieu, l'Eucharistie et un peu d'eau et de quoi manger, on tient et on est heureux.
Le moine, il va toujours au désert, quel que soit le désert. La vie monastique est adossée au désert, et notre vie, même si on est au cœur du monde, au cœur des villes, elle est adossée au désert. Et c'est là qu'on est relié à ce désert, et on va toujours retourner à ce désert. Voilà. D'où l'Aubrac, on parlait tout à l'heure, pour nous, c'est aussi faire une expérience de désert dans notre rythme annuel, d'avoir un temps plus de solitude et de silence. Le désert, c'est quitter ce qui nous encombre pour aller à l'essentiel. C'est aussi se libérer de l'avoir, du paraître, pour aller seulement à l'être, à ce qu'on est, et se découvrir soi-même finalement, pour enfin rencontrer Dieu qui habite là, au plus profond de notre cœur. C'est faire silence pour écouter Dieu en nous.
C'est ce à quoi vous invitez tous les pèlerins qui passent dans les différents lieux dans lesquels vous habitez, Vézelay, le Mont-Saint-Michel, même à Saint-Gervais. Enfin, vous voyez cette masse de gens qui continuent à affluer dans les sanctuaires et dans les monastères. C'est quand même radical comme proposition.
Dans le désert, qu'est-ce qui fait vivre le désert? C'est les oasis, c'est-à-dire des lieux où il y a de l'eau qui sort, parce que sans eau, on ne peut pas vivre au désert. Et donc, Frère Pierre-Marie avait cette expression, il faut creuser des oasis dans le désert des villes. Donc, proposer à l'homme citadin aujourd'hui, qui est assoiffé de spiritualité, assoiffé de sens dans sa vie, une oasis où il va pouvoir venir puiser à cette source qu'on va lui proposer, c'est-à-dire la parole de Dieu et l'adoration eucharistique, le silence, l'accueil, simplement... la convivialité fraternelle, quoi.
Parlez-nous de l'afflux qu'il y a dans ces différents lieux. Alors, parfois, ça ne tient pas qu'à la beauté de la liturgie qui est la vôtre. Hein. Par exemple, je pense au Mont-Saint-Michel. Mais ça, les gens ne cessent d'affluer dans les lieux où vous vous trouvez.
Il y a une vraie recherche spirituelle, qu'on le veuille ou non. Ce qui attire, bien sûr, c'est des lieux. Le Mont-Saint-Michel, Vézelay, c'est la beauté de ces édifices. Mais c'est aussi des lieux de silence. En fait, ce qui marque beaucoup les gens, c'est le silence, mais un silence habité. C'est un silence où on peut laisser la parole de Dieu résonner au plus profond de notre cœur. C'est aussi un silence qui nous ouvre à la présence de l'autre à travers le cœur. C'est une communion intérieure qui se crée, et la liturgie aide à cela. Et toutes nos liturgies aussi sont précédées par un temps d'oraison, c'est-à-dire de prière silencieuse, pour nous ouvrir à cette écoute intérieure. Voilà, donc c'est quelque chose de cet aspect du désert qu'on essaie de vivre au cœur du monde.
J'aimerais que vous nous parliez d'une grâce qu'a reçue le père Pierre-Marie Delfieux. C'était à Noël 1973, grâce qui est ce qu'on peut souhaiter en fait à tous les chercheurs de Dieu qui se pressent sur les chemins de Saint-Jacques ou dans les monastères en France. Racontez-nous cette nuit de feu, mais même pas, quand il en parle, on a l'impression que c'est plutôt cette nuit de l'évidence.
Il était tout seul dans cette nuit de Noël, dans son ermitage de la Sécrème, et il a dû célébrer la messe, j'imagine, mais il part surtout du moment d'adoration. Donc, dans ses journées à la Sécrème, il y avait la parole de Dieu, il y avait le travail manuel, il y avait les temps d'oraison et les temps d'adoration et la liturgie des heures en solitude. Et là, donc, c'est un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Et alors, qu'il a vécu, c'est qu'il a eu cette vision intérieure où il voyait le globe terrestre et les hommes qui étaient là tout autour de la circonférence de la planète, qui avaient le visage tourné vers le centre de la Terre, et tous ces visages se reflétaient au centre du globe terrestre et ça formait le visage du Christ. Et c'est là qu'il s'est dit, mais en fait, à travers le visage de l'homme, je peux contempler le visage du Christ. Et c'est ça, sa spiritualité, c'est aller à l'homme pour trouver en lui le Christ, trouver dans le visage de l'homme le plus beau des visages, qui est le visage de Dieu.
Il dit aussi donc, ni buisson ardent, ni fente du rocher, ni char de feu, ni murmure dans la brise, à chacun sa perception de l'ineffable, la mienne en cette nuit de Noël fut aussi sobre que dépouillée. Et un petit peu plus loin, une évidence absolue, Dieu est vrai, il est vivant, il conduit tout, explique tout. Celui que je suis depuis toujours ne m'a pas trompé, il est vrai puisqu'il est là. C'est vraiment un passage qui est très frappant. Pour les auditeurs qui continuent de chercher, on a l'impression en fait que le père Pierre-Marie Delfieux, en fait, il était déjà croyant, pratiquant. Et puis, un moment, comme il le dit lui-même, Dieu, dans sa grande liberté... lui a manifesté sa présence absolue. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui cherchent, qui espèrent en fait un peu ce moment où il y a quelque chose qui est scellé dans l'histoire d'amour d'un homme ou d'une femme avec Dieu. On est un peu dépendant du vouloir quand même de Dieu en cette matière.
Oui, en même temps, il faut se donner les moyens. Voilà, frère Pierre-Marie, c'est donner les moyens en partant au désert, de se dépouiller pour être disponible à l'action de Dieu dans sa vie. Donc parfois, il faut aussi se donner les moyens, vivre une retraite, un peu de retrait dans le silence, prendre la parole de Dieu, faire un temps d'adoration du Saint-Sacrement. C'est offrir des
moyens
lieux,
radicaux ou pas des... Ça aide que les moyens soient radicaux ou ça peut être des moyens simples?
Ça peut être tout simple aussi. Mais l'important, c'est qu'il y a un espace qui est donné à Dieu et aussi un temps qui est donné à Dieu qui va permettre cette expérience. Et je crois que c'est ça qui est au plus profond de l'intuition de nos fraternités. C'est pas vouloir faire du neuf dans le monachisme en tant que tel, mais c'est offrir des lieux d'expérience de Dieu, des lieux de silence au cœur de la vie quotidienne, quoi. Voilà. Et de pouvoir rejoindre l'homme là où il est aujourd'hui pour lui faire découvrir que Dieu vit avec lui dans ce qu'il vit aujourd'hui. Voilà.
Et le père Pierre-Marie Delfieux dit une chose qui m'a frappé. Il dit qu'en fait, tout le monde dans sa vie a plusieurs rendez-vous avec Dieu comme ça, qui lui sont proposés. J'ai trouvé ça culotté de dire ça. Est-ce que vous diriez la même chose? C'est qu'à toute personne qui cherche, en fait, Dieu donnera rendez-vous un jour?
Qui cherche trouve, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus, hein, c'est dans l'évangile. Donc je pense que Pierre-Marie a pris la parole de l'évangile au mot, et c'est vrai pour tout le monde. Dieu peut pas ne pas répondre à nos appels, à nos attentes. Alors après, il donnera comme il voudra, voilà. Et c'est ça, la gratuité de Dieu, c'est comme il veut, mais ce qu'il va nous donner, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, L'essentiel, c'est de faire l'expérience de l'amour de Dieu. En fait, tout le fondement de notre vie, c'est cette expérience de l'amour du Père. Et je crois que c'est ce qu'il a vécu, Pierre-Marie, à sa première communion. C'est ce qu'il a vécu quand il a décidé de rentrer au séminaire, qu'il a prié ce Notre Père. Il a senti l'amour du Père en lui. C'est ce qu'il a vécu dans cette nuit 73 dans son ermitage. Voilà, le cœur qui s'embrase. Je suis aimé, je suis aimé. Et ben, si je suis aimé comme ça, je ne peux pas ne pas aussi partager cet amour.
Pierre-Marie Delfieux, un moine dans la ville, on va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler, frère Jean-Christophe, un petit peu plus des fraternités monastiques de Jérusalem, fondées donc à l'initiative de l'homme dont on parle ce matin. On va parler de ce qui fait la beauté de votre charisme et qui donnera aux auditeurs envie de mieux connaître cette figure et d'aller vous rencontrer dans les différents lieux où vous vous trouvez en France. Thank you.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Pierre-Marie Delfieux, un moine dans la ville, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin avec comme invité le frère Jean-Christophe qui est moine et prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem. On a de la chance, il était dans le sud-ouest et il fait un détour par nos studios. Donc Pierre-Marie Delfieux, pour ceux qui par hasard n'auraient pas suivi, est donc cet enfant de l'Aveyron qui est donc devenu prêtre puis moine et qui s'est senti appelé à fonder donc les fraternités monastiques de Jérusalem qui sont des moines dans la ville. C'est comme ça qu'on peut un petit peu résumer. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu plus donc, de vos fraternités et puis de leurs particularités, de leur charisme, comme on dit. Donc la fondation, en tout cas pour les frères, date de 1975. Pour les sœurs, c'était en 1976. Quand on lit un peu les récits de la fondation, comme toutes les fondations, c'est vraiment la grande aventure. Hein. Donc à l'époque, c'est le cardinal Marty, cardinal archevêque, qui les accueille. Et puis ils sont dans une espèce de petit appartement ou de grand appartement, ils sont un peu les uns sur les autres. Il vous parlait, le père Pierre-Marie Delfieux, de ses débuts un peu fous?
Ah oui, ça, il aimait bien raconter ce genre d'histoire croustillante. C'était le presbytère de l'église Saint-Gervais, où le curé...
Donc il est juste derrière l'hôtel de ville de Paris.
Exactement, l'église. Et le curé était resté dans le presbytère, donc eux, ils avaient droit aux mansardes du presbytère, et ils étaient 12 là-dedans, et c'était très chaud l'été, très froid l'hiver, et les uns sur les autres. Donc les débuts étaient assez héroïques, et le cardinal Marty, donc était aveyronnais, comme frère Pierre-Marie, veillait sur ce petit troupeau, et donc cardinal Marty disait « Ils sont fous, ces moines ». En plus, à Saint-Gervais, on mange mal. Et cardinal Marty, chaque fois qu'il venait, amener un bon roquefort de l'Aveyron pour prendre soin de ces moines.
Alors, les débuts ne se sont pas faits sans difficulté. À lire un petit peu l'histoire de la communauté, on a l'impression que la crise est venue assez rapidement. Peut-être est-ce une bonne chose. Il vaut peut-être mieux parfois qu'elle vienne au début plutôt que plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette période difficile? Je vous disais que je trouvais ça bien d'en parler parce que l'attitude de Pierre-Marie Delfieux a été quand même assez sage. En période de crise, c'est toujours bon de se rappeler ça.
Bah, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une croissance de la communauté très rapide, en fait. Donc, beaucoup de frères sont rentrés. Puis, il y a eu la communauté des sœurs qui est née un an après. Donc,
la plupart d'entre eux n'ayant pas d'expérience monastique, en plus.
Quasiment aucun. Donc, il fallait former tout ce monde-là. Le cardinal Etchegaray, qui était archevêque de Marseille, a appelé à fonder à Marseille. Et Pierre-Marie, voyant qu'il n'y avait plus de place à Paris pour loger tous ses candidats, dit, bon, allez, allons-y, c'est un peu fou, mais on y va. Donc la communauté s'est déjà un peu dispersée à peine 3-4 ans après la fondation et c'est ça qui a fait que en fait parmi les frères il y en avait qui n'étaient pas du tout là pour la vie monastique, mais comme au départ on ne savait pas trop ce qu'on allait vivre, c'était une aventure assez enthousiasmante, on y allait et on accueillait un peu trop largement quoi, et donc ça s'est retourné contre Pierre-Marie, qui avait aussi sa personnalité hein. À un moment il y a eu une opposition. Il y a eu une visite, qu'on dirait aujourd'hui canonique, de l'évêque auxiliaire, Mgr Gilson, puis qui a dit à Pierre-Marie, ayant écouté tous les frères, « Pierre-Marie, je crois qu'il faut que vous preniez un peu de recul. » Voilà. Et donc là, Pierre-Marie a dit « d'accord ». Et donc pendant un an, en fait, Pierre-Marie a vécu en dehors de la communauté, tout en venant régulièrement le dimanche pour la messe à Saint-Gervais, mais regardant un peu de loin, ça a été une blessure très forte pour lui, mais finalement, je pense que ça, à mon avis, aidé à déployer le meilleur de lui-même.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de deux accents qui semble-t-il qui sont très forts dans votre communauté. Alors il y en a un, il faudrait tout simplement assister à une liturgie pour s'en rendre compte. Je regrette un petit peu de ne pas avoir mis comme pause musicale justement des extraits de vos liturgies. On aura peut-être d'autres occasions. C'est la beauté de la liturgie. Voilà, vous avez vraiment des liturgies absolument splendides. Et la beauté, c'était quelque chose qui tenait beaucoup au cœur du frère Pierre-Marie. J'ai lu un passage, j'essaie de le retrouver. Oui, mis 10 ans. Aujourd'hui, prêcher la morale n'intéresse plus, on a brisé les tabous, proclamer la vérité ne touche plus les esprits, on relativise tous les dogmes, appeler à la foi ne concerne plus les cœurs, on est venu à admettre que pour faire scientifique, il faut être sceptique. Et il ajoutait, sans doute peut-on avancer aujourd'hui que reste encore la voie de la beauté. C'est la dernière chose qui parle à l'homme contemporain sur lequel on peut le rejoindre.
La beauté, tout le monde y a droit. Je me souviens, quand nous avons été un temps à Bruxelles, malheureusement on n'a pas pu y rester, le carnet à Daniels qui nous avait appelé avait dit « mais les pauvres aussi ont droit à la beauté », parce qu'on était dans un lieu très, très populaire où il y avait beaucoup de pauvres. Donc la pauvreté, ça parle à tout le monde et ça peut toucher les cœurs de toute personne. Et donc Pierre-Marie avait ce désir et cet appel d'évangéliser par la beauté. La beauté, ce n'est pas l'esthétisme, la beauté, c'est cette expérience du vrai, du beau, que Dieu est plénitude et qu'on peut faire cette expérience à travers ce qu'il y a de plus matériel, donc à travers la beauté d'une église par exemple, à travers le créé, à travers des voix qui chantent, à travers des vitraux, à travers la parole de Dieu. Donc la beauté, c'est pas seulement que le chant par exemple, c'est ce qu'on retient souvent de nos liturgies, mais c'est le cadre. Pierre-Marie avait un souci de l'aménagement des églises. Saint-Gervais, il a aménagé du tapis de prière jusqu'aux vitraux. Chaque moindre détail était pour lui très important pour manifester la présence de Dieu dans ce lieu. Voilà. Et à travers le choix des chants, à travers la musique, il a toujours mis en valeur nos frères et sœurs musiciens au service de la liturgie, par exemple.
Vous pouvez dire un mot de votre liturgie ? Vous en avez parlé rapidement. Une liturgie qui respire à deux poumons, vous nous avez dit ?
Exactement, donc ça c'est aussi la grâce des communautés nouvelles. On a été plusieurs communautés à être nées en même temps dans les années 70. Il y avait aussi ces découvertes de la liturgie de l'Orient, des pères de l'Église qui étaient traduits en langue française. Et donc Pierre-Marie, il a baigné dedans. Il a connu André Gouze qui commençait aussi son expérience à l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron. Donc on a hérité de tout le travail liturgique d'André Gouze qui s'inspirait notamment, mais pas que, notamment de la liturgie orthodoxe byzantine et qui nous donne d'avoir une liturgie, je dirais, contemplative, une liturgie qui ouvre à l'intériorité, une liturgie qui est pétrie de la parole de Dieu. La plupart des textes de nos chants, c'est la parole de Dieu ou des pères de l'Église. Donc une liturgie qui nourrit l'âme, quoi. Voilà. Et une liturgie où la parole de Dieu est célébrée, chantée, commentée. Pierre-Marie avait un souci énorme de la prédication. Donc on a deux prédications par jour, une au milieu du jour faite par un frère ou une sœur, puisque c'est pas une messe, qui est sur la première lecture du jour, et le soir sur l'évangile par le prêtre ou le diacre. Donc Pierre-Marie avait le souci d'une liturgie qui enseigne.
L'autre point très important, c'est l'unité. Dès les débuts, j'ai lu, donc on a dit que les frères avaient été fondés en 75, en janvier 1976, à l'occasion de la semaine pour l'unité des chrétiens, et célébrée à Saint-Gervais, ce qu'on appelle donc un avant de l'unité. Racontez-nous ce grand souci qu'il avait de l'unité, et pas seulement l'unité entre chrétiens.
Pierre-Marie était un homme charismatique dans le sens ouvert à l'esprit, et plus on s'ouvre à l'esprit, plus on s'ouvre à une église indivise, une église qui désire vivre l'unité. Donc Pierre-Marie était un homme de communion, Pierre-Marie c'était un rassembleur, et donc il avait des relations comme par exemple avec Olivier Clément, cet ami théologien orthodoxe de l'Institut Saint-Serge, et qu'il a fait intervenir plusieurs fois à Saint-Gervais ou donner des cours aux frères et sœurs. Il avait le souci aussi que des frères et sœurs aillent se former à l'Institut Saint-Serge par exemple, mais aussi avec les protestants, les luthériens. Il voyait dans chaque confession chrétienne un apport pour nous. Une petite chose comme ça de notre liturgie. Le jeudi soir, nous avons une nuit d'adoration du Saint-Sacrement tous les jeudis soirs depuis la fondation. Ça commence par une procession du Saint-Sacrement. Mais bien Marie a dit on va faire une procession œcuménique. Donc il y a le Saint-Sacrement qui représente les chrétiens catholiques. Et puis, il y a l'icône dans la procession, ça va représenter les orthodoxes. Et il y a la Bible, ça va représenter les protestants. Voilà. Donc, Pierre-Marie a fait du neuf avec de l'ancien.
Et une ouverture aussi donc à d'autres religions, l'islam et le judaïsme. J'ai vu qu'il y avait même des fraternités d'Abraham, c'est ça qui est...
Les enfants d'Abraham. Qui se sont réunis une quinzaine d'années dans notre maison de Sologne à Magdala, voilà, sur des sujets spirituels, voire même tout un week-end sur Jésus, par exemple. Donc Pierre-Marie avait ce souci du dialogue, c'était vraiment un homme de dialogue, avec le rabbin Fari, par exemple, Philippe Haddad aussi, du mouvement juif libéral, avec Alem Benchir pour l'islam. Donc aussi des amitiés très solides, voilà, qui lui permettaient un peu de dépasser des frontières, quoi.
Vous avez même, non, vous reprenez de temps en temps des prières juives, voire même des prières musulmanes, ai-je lu, c'est...
Alors les prières musulmanes, on peut dire que ça a disparu. Voilà, il faut être clair que Pierre-Marie, à la fin, les 10 dernières années de sa vie, s'est plutôt rapproché plus des Juifs, parce qu'on a, on a toute la Torah, l'Ancien Testament qui nous est en commun. Et donc, il a plus privilégié ses relations avec les Juifs. Il a même terminé par des week-ends avec des Juifs messianiques. Et donc, effectivement, nous fêtions à...
Les Juifs messianiques, en deux mots, c'est ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur.
Oui, exactement.
Comme le Messie.
Voilà. Et donc, Pierre-Marie organisait des fêtes de Saint-Abraham à Saint-Gervais, où il y avait un Juif, un chrétien musulman qui commentait la parole de Dieu ou le Coran pour le musulman avec la figure d'Abraham. Voilà. Et nous avons aussi donc, c'est, la fête de Rosh Hashanah que nous fêtons chaque année en communion avec les Juifs, qui pour nous aussi la fête de la création. Donc ça rejoint Laudato aussi, aussi le pape François.
Pour finir, j'ai lu donc que le frère Pierre-Marie avait quelque part, enfin, était à l'origine d'une nouvelle spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi cette nouvelle spiritualité ?
Pierre-Marie nous donne de découvrir notre vie chrétienne au cœur du monde d'aujourd'hui. Voilà, un monde qui se sécularise, un monde qui s'éloigne de Dieu. Et Pierre-Marie, qu'est-ce qu'il nous invite à vivre ? À vivre comme Jésus. D'où son attachement à Charles Foucault, qu'il a connu depuis très petit. Il a rejoint en vivant à la Sécrème. Et Charles Foucault, vraiment une figure de sainteté qui a un fil rouge dans toute sa vie. Et Charles Foucault disait quoi ? Crier l'évangile par toute sa vie. Voilà. Regarde ce que fait Jésus et fait de même. Donc le modèle du moine pour Pierre-Marie, c'est pas Saint Benoît ou Saint Antoine, c'est Jésus. Donc c'est là où cette spiritualité monastique, elle s'imprègne de l'évangile, de ce que dit l'évangile et seulement de l'évangile. Voilà. Donc ça, c'est une part essentielle de la spiritualité de Pierre-Marie. L'autre aspect, eh bien, c'est notre rapport à la vie, le rapport au monde. Voilà, le monde, le moine, il quitte le monde, mais nous ne le quittons pas en sortant de l'espace monde, entre guillemets, de la ville, mais en étant au cœur de la ville. Mais on le quitte, le monde, par le cœur, c'est-à-dire par un style de vie où, au cœur du bruit, eh ben, on va faire silence. Voilà. Dans nos déplacements, on va trouver la paix intérieure. Donc, c'est ce que en Orient, on appelle le monachisme intériorisé, qui imprègne beaucoup notre spiritualité. Je dirais, ce moine par le cœur. Voilà, pas tant par les formes extérieures, même s'il y a des règles, et on a un livre de vie qui est notre règle de vie, et c'est nécessaire, mais par ce cœur qui est en veille, en fait, une vigilance intérieure pour choisir toujours ce qui va ouvrir à la communion, qui va ouvrir à la transcendance, Dieu présent au cœur du monde.
Eh ben, merci beaucoup, frère Jean-Christophe, d'être venu par nos studios pour nous faire découvrir le père Pierre-Marie Delfieux et par la même occasion donc la famille des fraternités monastiques de Jérusalem. Rendez-vous est donné pour les auditeurs dans les différents lieux où vous vous trouvez, donc entre autres à Tarbes. Comment s'appelle l'église à Tarbes ?
C'est la cathédrale de Tarbes.
La cathédrale de Tarbes, pardon. Et puis ou en d'autres lieux si vous êtes en vacances ou si vous allez visiter de la famille, donc à Paris, l'église Saint-Gervais qui est derrière l'hôtel de ville de Paris, ou au Mont-Saint-Michel ou à Vézelay. On donne juste le titre d'un livre pour mieux connaître votre spiritualité, Livre de vie de Jérusalem, Livre de vie de Jérusalem, aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.